Odyssée immigrée par Sophie Aluc.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour à tous. Né en Haïti, René de Pestre est un des grands écrivains que ce pays a donné au monde. Sa vie est un roman, une longue traversée au cours de laquelle il a rencontré les plus grands. De Jean Price Mars à Michel Léris, de Césaire à Breton, d'Éluard à Aragon, de Che Guevara à Ho Chi Minh, en passant par Alioune Diop, Jorge Amado et Pablo Neruda, la liste est longue des personnalités de haut vol qui auront croisé son chemin. Menant conjointement engagement politique et création littéraire, René de Pestre s'est battu toute sa vie pour l'avènement d'un monde meilleur. Une nation haïtienne libérée de la dictature, des pays du Sud décolonisés, un Cuba socialiste éclairé, un monde débarrassé de l'idéologie raciale, un monde enfin où la poésie trouve la place qui lui revient. René de Pestre se dit vaincu. Les révolutions ayant été dévoyées, Haïti zombifié, le racisme encore vif et la poésie en danger. Mais le combat continue. À 83 ans, René de Pestre, installé dans le sud de la France depuis près de 25 ans, poursuit et l'écriture et l'engagement. Il est plus que jamais en quête, selon ses propres mots, de l'oxygène d'une solidarité sans précédent. La tragédie qui vient de frapper les siens, il y a exactement un mois, jour pour jour, au moment où nous enregistrons cette émission, aura donné au monde l'occasion d'exercer une si vitale solidarité. René de Pestre, bonjour.
Bonjour madame, bonjour.
Et merci d'avoir accepté cet entretien téléphonique. Je suis très fière de vous avoir aujourd'hui parmi nous, même à distance.
Je vous remercie de vos propos très obligeants. J'en suis honoré.
Merci. Alors tout d'abord, évidemment, je vais vous demander des nouvelles d'Haïti et de Jacmel, la ville haïtienne qui vous a vu naître.
Bon, j'ai vu la nouvelle tout à l'heure à la télé. Il semble que les choses ne s'arrangent pas tout à fait parce que il a plu hier. Habituellement, la saison de pluie commence plutôt fin mars. Or, aujourd'hui, des pluies torrentielles sur des gens qui ne sont pas tous abrités seraient catastrophiques. Et il semble que c'est le cas. Mais les amis d'Haïti sont mobilisés. Je crois qu'il va y avoir un effort décisif pour que tout le monde ait un abri aujourd'hui.
D'accord. Vous êtes de Jacmel, je l'ai dit. Jacmel, comme le dit aussi Maryse Condé,
oui.
Serait la capitale spirituelle d'Haïti, une ville magique qui entra les tableaux du peintre Préfète Dufaux, écrit-elle, qui sera l'héroïne du roman de Jean Mietelus, Jacmel au crépuscule. Elle est considérée comme un haut lieu de tradition. Être jacmélien est un privilège, nous dit Maryse Condé. Vous partagez cet avis ?
Oh oui, vous savez que Jacmel a une autre tradition de civilité, de culture. On a donné à Haïti plusieurs poètes importants, et notamment Maurice Leroy et Mietelus lui-même et d'autres, n'est-ce pas ?
Et vous pouvez vous ajouter à la liste.
Je suis l'un des fils de Jacmel. Ouais. Jacmel a été frappé durement par le tremblement de terre.
Oui.
Je crois que la ville est sinistrée à 60%. J'ai appris que l'école primaire où j'avais fait mes études s'est effondrée. D'ailleurs, on est en train de faire des efforts ici, où j'habite, à Lézignan-Corbière, pour prendre en main la reconstruction de cette école. L'hôpital a été détruit. Enfin, beaucoup. C'est une ville qui a une valeur touristique, qui est située dans un site admirable, au bord d'un golfe extrêmement beau. Et c'est un des trésors d'Haïti, Jacmel.
Alors, permettez-moi pour commencer cette émission aussi de formuler un vœu. J'aimerais que le séisme qui vient de frapper votre pays déclenche un autre séisme, un séisme des consciences, celui-ci, si je peux me permettre d'avoir ce terme un peu grandiloquent, mais pour dire que l'Occident chrétien, comme vous me l'appelez, ouvre grand les yeux sur l'extraordinaire apport des Haïtiens à l'humanité. J'aimerais qu'on revienne sur l'histoire d'Haïti, Monsieur René de Pestre, parce que il me semble qu'on n'a pas encore bien mesuré la portée du geste libérateur des esclaves marrons d'Haïti. C'est là que le nègre s'est fait homme, a écrit l'intellectuel haïtien donc Hannibal Price.
Hannibal Price.
Il s'est fait homme non seulement en brisant ses chaînes, mais aussi en choisissant d'édifier une république et non une dictature où seraient asservis à leur tour les colons. Il me semble que c'est intéressant et très très fort le fait que les anciens esclaves n'aient pas succombé à l'esprit de vengeance. C'est déjà en soi une position morale tout à fait éclairée, il me semble, qui donne une grande leçon à l'humanité. Qu'en pensez-vous ?
Oui, je pense que jusqu'à ce jour, on peut dire que Haïti est largement méconnu en Occident. On a un passé extraordinaire. Dans un certain sens, bien qu'on ait manqué l'État-nation, la formation d'un État-nation au 19e siècle, on a quand même constitué ce qu'on peut appeler une nation culturelle, et, n'est-ce pas ? Et la preuve, c'est que dès le 19e siècle, dès la fin du 19e siècle, s'est constitué en Haïti ce qu'on peut appeler une véritable intelligentsia.
Oui, on va y venir juste après, mais je voudrais qu'on revienne sur cet épisode de l'indépendance durement conquise.
Ce qui est arrivé, qui est très grave, c'est que très tôt, on peut dire que dès le début du 19e siècle, un cordon sanitaire a entouré Haïti. Ce cordon sanitaire qui vient de l'ostracisme que Napoléon lui-même avait jeté sur l'indépendance d'Haïti en rétablissant l'esclavage aux Antilles en 1802, eh bien, au congrès de Vienne, dès le congrès de Vienne de 1815, qui devait liquider l'héritage napoléonien, bien qu'étant en lutte avec Napoléon, les monarchies blanches de l'Europe n'ont pas voulu admettre le fait historique de l'indépendance d'Haïti, n'est-ce pas ? Mm-hmm. Ils n'ont pas pris au sérieux la révolution haïtienne, et ça a été pour les Haïtiens une frustration dont on ne s'est jamais remis pratiquement. Et Haïti a pensé à l'époque que peut-être en acceptant d'indemniser les anciens colons de Saint-Domingue, que peut-être on pourrait acquérir une sorte d'honorabilité sur la scène politique internationale. Donc, on a payé les 90 millions de francs or au 19e siècle, n'est-ce pas ? Ça a été très compliqué, parce que à partir de ce moment-là, on peut dire qu'a commencé dans la vie d'Haïti un processus de tutelle, un processus de protectorat, parce que Haïti s'est endetté, pour payer sa dette, Haïti s'est endetté auprès de nombreuses places financières et boursières de l'Occident, n'est-ce pas ? Alors, on est entré dans un engrenage infernal, et puis, au lieu de s'en sortir, on a eu, au début du XXe siècle, on a eu en face de nous ce qu'on appelle le bon voisinage américain, n'est-ce pas ? Et Haïti est tombé sous la tutelle des États-Unis dès le mois de juillet 1915, jusqu'à 1934. Mmh. Et quand les Américains ont retiré leurs troupes d'Haïti en 1934, le système de contrôle douanier et financier américain est resté jusqu'à ce jour en Haïti. Donc, il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, la plupart des spécialistes de la géopolitique posent la question dans les médias, que c'est ce que je lis, faut-il mettre Haïti sous tutelle ? Vous voyez, c'est toujours la question.
Toujours la question récurrente.
Récurrente, on n'admet pas l'indépendance d'Haïti. Mm-hmm.
Alors justement,
l'importance de la révolution haïtienne dans l'histoire du droit, universel, ce n'est pas un phénomène seulement local, caraïbéen ou américain, C'est un phénomène qui a une importance dans l'histoire de la civilisation mondiale, comme Césaire avait eu à le dire.
Oui, justement, je voudrais citer, vous citez Césaire dans votre livre, que je recommande d'ailleurs fortement aux auditeurs, « Encore une mer à traverser », édité donc à la table ronde en 2005, où vous citez Césaire qui dit de Toussaint Louverture, donc votre héros libérateur, qu'il aura été le premier dirigeant du Sud colonisé à avoir tenté, au péril de sa vie, de particulariser et d'universaliser les expériences démocratiques de la Révolution française. Et il ajoute « Le combat de Toussaint Louverture fut ce combat pour la reconnaissance de l'homme. Et c'est pourquoi il s'inscrit et inscrit la révolte des esclaves noirs de Saint-Domingue dans l'histoire de la civilisation universelle. »
Exactement.
Et je crois qu'il faut prendre vraiment la mesure de ce
fait-là. Ça, c'est très important. C'est ça qu'il faut maintenant. Naturellement, je constate avec satisfaction que dans la conjoncture actuelle, la solidarité des sociétés civiles, pas seulement européennes, mais du monde entier, dépasse l'imagination. Je pense qu'aujourd'hui même, la solidarité est allée au-delà de l'ingérence humanitaire, qu'on assiste à une sorte d'explosion de la civilité démocratique mondiale autour d'Haïti. C'est très rassurant. Et au point que j'ai écrit un article qui s'appelle « La tendresse du monde » aux côtés d'Haïti, n'est-ce pas? Mm-hmm. De la solidarité à la tendresse, il y a un pas qui me paraît qui est franchi souvent ces temps-ci dans les manifestations de solidarité.
Bien. Revenons à l'histoire, si vous voulez bien, et à cette intelligentsia dont vous parliez tout à l'heure, qui donc s'est formée après l'indépendance.
Oui.
Et il me semble que cette lutte, justement, pour la dignité nègre, comme on pourrait l'appeler entre grosses guillemets, et justement, cette intelligentsia s'est sentie dotée de cette responsabilité de poursuivre la lutte, alors cette fois peut-être sur le terrain des idées, sur le terrain de réfléchir à cette question raciale, on peut le dire comme ça.
Moi, je pense que peut-être on a donné trop d'importance au 19e siècle dans les débats, mais c'était inévitable à la question de race. Il y a une confusion entre l'idée de nationale et l'idée raciale. Les Haïtiens ont combattu énormément, avec beaucoup d'énergie, ont investi beaucoup d'énergie dans la défense et la réhabilitation de la race noire. C'était une idée qui était très chère. Vous avez cité Hannibal Buress, mais il y a eu aussi Louis-Joseph Janvier, il y a eu Anténor Firmin, et avant Price Marx. Ils ont tous insisté parce qu'ils pensaient peut-être que la question raciale était le moteur de la démocratie et de l'égalité, de la fraternité, alors que c'était une question nationale qui était débattue, je ne sais pas.
Est-ce que vous ne pensez pas que c'était aussi le fait que les conséquences, enfin les séquelles, j'allais dire, de l'esclavage et du racisme sur les mentalités étaient encore très vives à l'époque et en Haïti et dans le monde occidental? Est-ce que c'était pas pour justement continuer cette lutte qu'avaient commencé les esclaves, eux, dans les libertés physiques, et là c'était une liberté psychique peut-être à conquérir?
Oui, bon, c'était l'idéologie de la révolution haïtienne, et c'est d'abord une idéologie et religieuse avec le vaudou. Le vaudois joue un très grand rôle dans l'imaginaire haïtien au moment des luttes de l'indépendance. Mais c'était l'idéologie raciale. C'était l'idéologie qui prédominait sur la plantation coloniale, autour des dirigeants haïtiens, des chefs militaires haïtiens. C'était leur idéologie native, si je peux dire. Mais il fallait faire le saut à l'idéologie nationale, n'est-ce pas? Naturellement, il y avait un héritage très lourd, parce que très tôt, depuis, on peut dire même à partir de Christophe Colomb, on a eu l'habitude de déguiser les faits sociaux en faits raciaux. On a pris l'habitude d'une sorte de carnavalisation de l'histoire. Absolument. C'est-à-dire on a posé des masques sur les lieux géographiques eux-mêmes, qu'on a changé les noms des localités. Et Haïti, avant d'être Saint-Domingue, c'était Haïti son nom. On l'a appelé Saint-Domingue, on l'a appelé Espagnola, on l'a appelé Hispaniola, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc cette façon d'introduire dans une sorte de carnaval politique la vie des opprimés de la plantation, n'est-ce pas, a marqué beaucoup la conscience des gens. Les Noirs, chez eux, en Afrique, avant la déportation, n'avaient pas de même une conscience raciale, ça mm-hmm. n'existait pas. Ils appartenaient à des mm-hmm. des clans, à des tribus, et à des ethnies, disons, mm-hmm. à des ethnies, n'est-ce pas? Brusquement, génériquement, on a décidé que les habitants des îles, les précolombiens seraient des Indiens et les esclaves importés d'Afrique seraient des Noirs et des Nègres, n'est-ce pas? Ça a compliqué, ça a surdéterminé la conscience sociale des Haïtiens. Et on a ajouté à la traditionnelle opposition entre maître et esclave qui vient de loin, de la plus lointaine antiquité, n'est-ce pas? On a ajouté à cela une problématique raciale. Une fausse problématique, puisque là, on a fini par découvrir que c'est pas vrai, que la race est un mythe, qu'il n'y a pas de race.
Oui.
Donc, on a investi une énergie extraordinaire en vivant intimement, intensément, un mythe.
Absolument.
Un mythe colonial, un mythe colonisé.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
J'aimerais citer un article vraiment passionnant, une sorte d'entretien que vous avez donc publié dans le numéro 1, tout premier numéro de la revue Gradiva, du musée du Quai Branly, que je recommande aussi aux auditeurs, donc qui est consacré à Haïti et à l'anthropologie.
Oui.
Et là, vous écrivez, ce qui est très grave dans l'histoire de la colonisation, parmi beaucoup d'autres choses, c'est d'avoir ajouté à la traditionnelle, à l'universelle domination de l'homme sur l'homme qu'on connaît depuis le début de l'histoire, une idéologie mythologique comme la notion de race pour aggraver la situation matérielle et physique déjà très précaire des gens par une douleur psychologique, car la race n'a engendré que la douleur, la honte de soi, la solitude, une sorte d'incompréhension suicidaire de soi.
Oui, on n'est jamais sorti de cette auberge fantastique, si je peux dire, n'est-ce pas, de l'histoire de l'idéologie coloniale. Et donc, on a fait, c'est ce que j'appelle le surplace existentiel des Haïtiens. On n'est pas sorti. J'ai l'impression qu'on n'a pas voulu entrer dans le système de l'État-nation, dans le système de la société civile que proposait l'Europe, une Europe qui était raciste, n'est-ce pas, pour protester contre le cordon sanitaire qu'on a créé autour d'une indépendance dont on était si fier, dont on avait toutes les raisons du monde d'en être fier, n'est-ce pas? On nous a méprisés et il y a une sorte de refus, n'est-ce pas, d'entrer dans le jeu dit démocratique, entre guillemets, n'est-ce pas? Enfin, je cherche des explications du retard qu'on a pris par rapport aux autres sociétés latino-américaines, par exemple, qui, eux, malgré tout, ont pu constituer des États stables, des nations, avec beaucoup moins de drames, de tragédies que Haïti. Mm-hmm. Je pense au Venezuela, au Pérou, à Cuba, et au Mexique, etc., n'est-ce pas? Il y a une spécificité, c'est ce que j'appelle, je dis que Haïti est une sorte de apax. Apax, c'est un mot qui vient de la linguistique, qui désigne une occurrence linguistique qu'on ne trouve qu'une fois dans une langue, n'est-ce pas? Haïti, c'est un cas d'école spécifique qui a son histoire propre, très sui generis, qui nécessite des études très particulières. Mm-hmm. On ne peut pas coller sur Haïti des grilles d'explication qui sont des clichés, qui sont des stéréotypes. Mmh. Haïti doit se prêter au questionnement, à la recherche, à la connaissance. C'est ce que j'ai, dans la circonstance actuelle, j'essaye de faire.
Qui me rendra mon pays, Haïti? Toi mon seul paradis, Haïti. Quand je me rappelle tes forêts si belles, tes grands horizons, loin de tes rivages, la plus belle cage n'est qu'une prison. Haïti, ville aujourd'hui, je chante le calme
de. Je pense que vous avez sûrement remarqué que partout maintenant, on pose la question, faut-il mettre Haïti sous tutelle ? Comprenez ? L'imagination ne conçoit pas qu'on puisse inventer pour Haïti afin de sortir de ces crises, de ces crises structurelles et maintenant d'une crise sismique, n'est-ce pas ? Qu'on puisse concevoir une forme originale de gouvernement haïtien qui préserverait la souveraineté du pays, son indépendance, parce que les Haïtiens sont extrêmement attachés à leur indépendance nationale, même si elle était très fragile. Elle a toujours été, depuis 1815, et si on veut remonter très loin dans l'histoire. Je ne sais pas si on a le temps, parce que j'aurais pu vous lire très rapidement comment aujourd'hui il est important de passer en revue diverses options géopolitiques qui sont présentes à l'horizon d'Haïti, n'est-ce pas ? Mm-hmm. Par exemple, je peux y aller.
On va changer un petit peu le cours de l'émission parce que
il y a diverses options. Sans trop d'imagination, on peut voir comment sortir Haïti du pétrin actuel sans que ce soit sous l'étiquette d'une tutelle, d'un nouveau protectorat, c'est-à-dire d'une perte de notre indépendance. Vous voyez ?
Alors dites-nous.
Parce que c'est très important. On croirait qu'il n'y a pas. Il y a des options. Alors, est-ce que Haïti peut-il former une fédération avec la République dominicaine ? Est-ce que c'est possible ?
Il me semble que quelqu'un comme, déjà, Anténor Firmin, cet grand intellectuel d'Haïti
oui.
Pensait déjà à la question d'une confédération
oui,
caribéenne.
Non, on ne peut pas penser à une fédération caribéenne. Peut-être du fait des différences de colonisation qu'on a connues. Enfin, c'est prématuré. Mais avec la République dominicaine, c'est impossible parce qu'il y a un contentieux entre les deux pays qui n'est pas encore épongé, n'est-ce pas ? Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on peut faire une fédération avec les anciennes colonies britanniques, c'est-à-dire la Jamaïque, la Barbade, Sainte-Lucie, Trinidad et Tobago ? Non. En matière de religion, en matière de langue, de mentalité, ce sont des pays qui ont été colonisés par la Grande-Bretagne. Les difficultés de cohabitation seraient insurmontables.
Mm-hmm.
Bon. Est-ce qu'on peut s'intégrer à l'organisation républicaine des DOM-TOM de langue française, Martinique, Guadeloupe, Guyane ? Mais je pense qu'on ne peut pas, visiblement, on ne peut pas demander à ces sociétés développées de prendre en charge le redoutable sous-développement de leurs voisins haïtiens des Grandes Antilles. C'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Bon, une autre option. Est-ce qu'on peut faire d'Haïti un énième État américain sur le modèle de Porto Rico ? Non, parce que ni le Parti républicain, ni le Parti démocrate des États-Unis, même avec la présence d'un Barack Obama et de Michelle Obama à la Maison-Blanche, les États-Unis ne seraient pas disposés à ouvrir leurs frontières à la main-d'œuvre immigrante d'Haïti.
Oui, alors qu'est-ce que vous proposez alors ?
Bon, alors moi, qu'est-ce que je propose ? Bon, alors il y a d'autres choses, parce que Régis Debré, récemment, dans une logique plutôt de fraternité, Debré a proposé dans Le Monde de faire d'Haïti un pupille de l'humanité. Mais le mot pupille
se
définit comme un enfant orphelin placé sous tutelle.
C'est
On
sûr.
Retrouve la notion
de
tutelle, vous voyez.
Ouais.
Mais Debré le fait dans une logique de fraternité, il faut le dire, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qui reste ? Mon ami, le grand professeur haïtien, Laïnec Urbon, a proposé qu'on fasse un partenariat entre la communauté internationale et le personnel politique d'Haïti. Mais la notion de communauté internationale n'est pas une notion juridique, n'est-ce pas ? La communauté internationale ne peut pas négocier à une table avec Haïti un nouveau statut sur la scène des États. Ce n'est pas possible. On revient aux Nations Unies. Notre avenir est en bonne partie entre les mains des Nations Unies. Mais aux Nations Unies, c'est ça qu'il faut comprendre, qu'il faut expliquer. Il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, aux Nations Unies, on a repris l'héritage, vous vous souvenez, du régime des mandats qui existait à la Société des Nations, on l'a transformé en un régime de tutelle. Mais ce régime de tutelle n'a jamais fonctionné en Occident à la fin du XXe siècle, n'est-ce pas?
Ça pourrait prendre quelle forme alors?
Alors ça pourrait prendre la forme, oui, vous me posez la bonne question parce que vous êtes impatient, vous avez raison, et la forme d'une sorte de un système d'intergouvernance, c'est-à-dire un système qui à la fois aiderait Haïti à construire son État, à la refonte de ses institutions dans tous les domaines, à la reconstruction de ses infrastructures, mais tout en préservant l'indépendance et la souveraineté d'Haïti. Il faut inventer quelque chose de neuf, quelque chose d'inédit. Je dis intergouvernance parce que la notion de gouvernance est une notion récente dans l'histoire des idées politiques, n'est-ce pas ? Et inter suppose qu'il y a une solidarité, une liaison, que ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une abolition de la souveraineté haïtienne, mais plutôt un pouvoir démocratique, original, n'est-ce pas, qui sortirait Haïti de ses crises chroniques et de son surplace existentiel. J'ai beau réfléchir, j'en ai parlé d'ailleurs avec Régis Debray de cette affaire d'intergouvernance, mais je n'ai pas les moyens de proposer aux Nations Unies un concept. C'est la croix et la bannière aux Nations Unies d'adopter un nouveau concept, un nouvel organisme, une nouvelle direction de leur politique, vous comprenez? Oui. Alors, les Nations Unies sont présentes en ce moment en Haïti, mais il s'agit d'une opération purement ponctuelle. Ils sont là dans la MINUSTA, c'est pour un temps déterminé. Or, Haïti a besoin, après le tremblement de terre, Haïti a besoin maintenant d'un effort suivi de peut-être d'une génération pour s'en sortir. Mais les Nations Unies ne peuvent pas rester longtemps, 2-3 ans. Je sais qu'on a nommé Bill Clinton coordonnateur de la gestion de l'aide. C'est intéressant parce que Clinton est un homme sérieux. Il aime Haïti. Mais je pense que Clinton pourrait s'entendre dans une intergouvernance avec des dirigeants haïtiens démocrates, responsables, n'est-ce pas? Parce qu'on reçoit une manne financière. Il faut que cet argent soit investi efficacement dans la refondation d'Haïti, n'est-ce pas?
Oui,
donc,
c'est ça que
je pense qu'il faut débattre d'un nouveau statut constitutionnel et juridique d'Haïti. Ce serait un bon moment parce qu'en ce moment, on constate une sorte d'interdépendance croissante entre les sociétés, entre la culture, entre la civilisation elle-même. Donc, la notion de souveraineté n'a pas ce caractère sacré qu'elle avait autrefois dans les grands pays et dans les petits pays aussi. La preuve, c'est qu'en Haïti, on est attaché profondément à cette affaire de souveraineté nationale.
Monsieur René Depestre, on va faire une petite pause musicale. Je vous invite à écouter ce chanteur réunionnais, tout à fait intéressant. Vous allez l'entendre avec donc une chanson qui s'appelle Courage.
Ah, merci, avec plaisir.
Ils sont comme mes cris désespoir. parée pour saute la grand voile. Ni tes sons nous léger, t'es pas pour m'asiner jamais. L'aurait vite sa vie en cauchemar. Le ciel des connus noirs somnias. Et n'a commencé en ton grand et l'orage. Le vent l'a chaviré, la mer l'a démonté. Et ça la foule l'a fait nos frères.
Écoutez Aligre FM 93.1.
Monsieur René Depestre, vous êtes toujours
oui.
avec nous.
Avec vous, avec plaisir.
Écoutez, je voulais avoir votre sentiment sur cette chanson. Est-ce que vous n'entendez pas quelque part, l'histoire c'est celle d'un naufrage et d'un naufragé, mais je trouve qu'on entend aussi, qu'on peut entendre cette chanson sur l'histoire symbolique de l'esclavage de tous ces Africains dans les cales des bateaux qui échouent sur des terres inconnues. Je voulais mettre en avant dans cette émission, mais on est un peu parti sur une autre direction et je comprends votre soif, votre appétit de parler de l'actualité et du devenir de votre pays. J'avais envie qu'on revienne tout de même sur l'importance. Je comprends votre position quand vous dites que ces intellectuels ont été un peu obsédés par cette question de la race, mais il me semble
oui,
que quand même...
Oui, qui a occupé trop de place dans
oui,
notre
c'est
imaginaire.
Ça, c'est ça.
Place.
Mais il faut quand même savoir, il me semble que c'est important de rappeler, ne serait-ce que pour les Français, que, comme le dit Daniel Maximin d'ailleurs dans son ouvrage « Les fruits du cyclone
oui. »,
il écrit « Pas une apologie du racisme en Europe ne trouve sa contradiction immédiate dans un ouvrage haïtien ». Par exemple,
oui.
en 1880, de l'égalité des races humaines d'Anténor
oui.
Firmin ou de la réhabilitation de la race noire d'Hannibal Price.
Oui.
Il ne faut pas s'en tenir seulement à l'histoire d'Haïti. Il me semble que justement, la force d'Haïti, c'est que ce combat, il était aussi universel. Il était viable aussi, non seulement en Haïti, mais partout en Europe, là où le racisme sévissait. Donc ça me semble
oui.
quand même très important, cette prise de position-là, et qui est quand même assez mal connue.
Mais nous avons vécu toute une génération, celle de Senghor, celle de Césaire, Fanon, tous ces problèmes-là ont été largement débattus, discutés. Les congrès que Présence africaine avait organisés, l'action d'Alioune Diop, toute une génération quand même a pu avoir, est arrivée à maturité.
Mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a une filiation.
Il faut dépasser les contraintes de l'histoire, vous comprenez, il faut aller de l'avant. On a vécu toute une expérience raciale, mais il faut s'en sortir aujourd'hui parce qu'on entre dans un autre cas de figure de l'histoire des humanités. On ne peut pas s'enfermer dans des histoires d'identité. D'ailleurs, cette affaire identitaire est devenue un tiroir de tailleur où on trouve toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Et il faut inventer d'autres choses. L'histoire avance. Et moi, je suis quelqu'un très lié au passé, mais en même temps, il faut aller vers l'avant. En ce moment, on est confronté à une mondialisation financière, et boursière, numérique, technologique, etc., qui a besoin d'une mondialité à côté, c'est-à-dire d'une nouvelle perception de notre rapport à la planète Terre. Je ne sais pas si vous avez lu les travaux d'Edgar Morin. Edgar Morin nous aide à comprendre qu'aujourd'hui, c'est la terre qui est notre patrie. Il y a la terre-patrie. On peut tenir les deux fers au feu, à la fois notre terre d'origine, l'hexagone, notre terre particulière, et puis la petite planète. D'ailleurs, l'écologie nous apprend que tous les problèmes aujourd'hui sont planétaires. N'est-ce pas?
Donc, il faut le problème du racisme, pour vous, il est derrière nous?
Non, il n'est pas derrière nous. On a les outils. Ah oui, je suis d'accord. Il n'est pas derrière nous.
On est d'accord.
On a les outils pour le dépasser. les outils qu'ont apporté des gens comme Senghor, comme Césaire, comme Fanon, comme Cheikh Diop. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui, Nicolas Guillén à Cuba, pour dépasser cela sur le plan de sa vie individuelle et comme sur le plan collectif. Et c'est devenu une affaire communautaire, on partage dans les mêmes clichés, les mêmes stéréotypes, les mêmes poncifs de tout le temps. Non, un intellectuel doit défricher des terrains, ouvrir les horizons, intégrer. Il faut une vision synoptique et intégrer des choses, vous voyez, intégrer, dépasser, aller de l'avant, comprendre qu'aujourd'hui l'horizon est planétaire, c'est pas seulement de notre horizon national, ni notre horizon régional, ni insulaire, n'est-ce pas? On appartient à l'humanité. Il faut réfléchir à plusieurs choses à la fois, n'est-ce pas? C'est ça que je dis,
oui. Non? Tout à fait. Alors, on parlait de cette intelligentsia haïtienne.
Oui.
Vous avez dit, en parlant de l'intellectuel haïtien, c'est un type humain anthropologique que l'intellectuel haïtien. Et qu'à côté de l'analphabétisme, vous disiez qu'on pouvait côtoyer des hommes
on
de grande culture.
Certains
autodidactes, comme Thomas Lachaud, Jacques Roumain, qui a appris l'allemand pour lire le marxisme dans le texte. Toutes ces grandes figures, c'est ça un petit peu aussi que je souhaitais souligner. Et qu'on connaît si mal ici.
Ce qui est frappant en Haïti, c'est qu'il y a une nation culturelle, tout en étant un tout petit pays, même comme vous venez de le rappeler, un pays où il y a un taux d'analphabétisme très élevé, mais on a toujours eu une intelligentsia. En ce moment même, sur la scène haïtienne, il y a des écrivains remarquables, des artistes, ne parlons pas de la peinture, qui a été un mouvement extraordinaire, n'est-ce pas? Donc on a un imaginaire très riche, et je pense que cet imaginaire doit nous permettre aujourd'hui, n'est-ce pas, justement au moment où on reçoit de tels témoignages de solidarité, on reçoit une manne financière que le monde entier découvre aujourd'hui, les ressources d'Haïti, n'est-ce pas? Il faut, nous, qu'on apporte quelque chose aussi. Quelque chose dans le questionnement de notre pays, dans une meilleure intelligence de tout ce qui s'est passé. Pourquoi avons-nous pris ce retard en matière politique? Parce que en matière de la sensibilité, on n'est pas en retard, Dieu merci, n'est-ce pas? Donc, il faut rentrer dans la mondialité. Moi, c'est Chamoiseau et Glissant qui disaient récemment qu'Haïti est un cas d'urgence totale. Dans cette urgence totale, nous devons, nous, apporter notre contribution à la mondialité. Parce que ce qui va équilibrer les excès de la mondialisation, c'est une mondialité, c'est-à-dire une perception originale, une sorte de nouveau romantisme, cette fois-ci planétaire, n'est-ce pas? Pour que les gens ne soient pas simplement des consommateurs, mais qu'ils soient des citoyens, qu'ils soient des hommes libres, des femmes libres, indépendants, qu'on soit sensible à tout ce qui se passe sur cette planète, n'est-ce pas, et qu'on ait un haut sentiment de solidarité. Moi, je suis plutôt optimiste, si je peux dire. Je pense que j'ose penser qu'à quelque chose, malheur aura été bon, parce qu'il a fallu une catastrophe de 7,3 sur l'échelle de Richter, n'est-ce pas, pour qu'on découvre que Haïti a un passé civique extraordinaire, a un passé de civilisation, qu'Haïti n'est pas tombé des dernières pluies, que malgré notre stagnation en matière de droit et en matière de civilité démocratique, n'est-ce pas, nous avons des choses à offrir au monde. Donc, il faut un réveil, une sorte de réveil. C'est à ça que j'appelle mes compatriotes, des gens comme Daniel Laferrière, comme Lionel Trouillot, comme Ticat.
Toutes ces grandes plumes.
N'est-ce pas? Ce sont des gens très brillants. À Haïti, on a de grands peintres, de grands professeurs. La diaspora doit jouer un rôle plus important maintenant dans l'avenir d'Haïti pour justement constituer cette espèce d'intergouvernance avec ceux qui sont appelés à gérer la refondation d'Haïti, parce qu'il faut, une aide technique, une aide d'experts, une aide dans la révolution numérique notamment, n'est-ce pas, pour que l'avenir d'Haïti ne soit pas aussi sombre qu'a été son passé, n'est-ce pas?
J'aurais voulu que vous nous présentiez votre poème « Un arc-en-ciel pour l'Occident chrétien », ce poème qui a été reçu par Jean-Paul Sartre d'une manière très, très chaleureuse.
Comment vous le savez que j'avais été bien reçu par Jean-Paul Sartre?
Écoutez, je l'ai lu dans un de vos livres.
Oui. Effectivement. Et Sartre m'avait proposé de faire la préface du livre. Je n'ai pas sauté sur l'occasion parce que je devais rentrer à Cuba. Et au lieu de laisser le manuscrit, j'avais une copie pourtant, à Sartre, je l'ai emporté à Cuba, le temps est passé, et puis ça ne s'est pas fait. Mais il avait lu mon manuscrit, il avait consacré toute une nuit, me lire, n'est-ce pas? Le lendemain, au petit déjeuner, c'était à Vienne, n'est-ce pas? Il était enthousiaste, il m'a dit, mais c'est pas un recueil de poèmes, cher ami, c'est une œuvre que vous avez faite. J'étais très content, parce que c'est peut-être mon meilleur recueil de poèmes, parce que j'ai pu intégrer la mythologie vaudou à mes préoccupations d'écrivain révolutionnaire, n'est-ce pas? Je crois que c'est un livre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que vous en pensez.
J'ai beaucoup aimé, et je vais lire, si vous voulez bien, un extrait d'un arc-en-ciel pour l'Occident chrétien. Avant cela, j'aurais voulu que vous nous le situiez, c'est-à-dire que vous nous expliquiez un petit peu le contexte dans lequel vous l'avez écrit.
Écrit ce livre?
Oui.
C'est un cancer pour l'Occident chrétien. Bon, moi, vous savez, j'avais, dans mon enfance et dans mon adolescence, j'avais été très influencé par le vaudou. Je n'ai pas découvert le vaudou dans les livres, comme ça peut arriver à des Haïtiens de la ville, parce que j'habitais à Jacmel. Ma mère nous emmenait, avait une petite ferme dans les montagnes de Jacmel, et quand on allait passer les vacances, on vivait de près les cérémonies vaudou. On était dans la familiarité des dieux du vaudou, on les connaissait par leur nom, d'une façon familière. Donc, à la fois, on avait deux fers au feu, on était très catholique dans ma famille, mais on était très, très vaudouisant aussi. Donc, j'ai toujours pensé que j'avais une dette envers ces dieux du vaudou, n'est-ce pas? Et je ne voyais pas un hiatus insurmontable entre les études que j'avais faites à Paris, à la Sorbonne et à Sciences Po, n'est-ce pas? Et mes connaissances des dieux d'Haïti, n'est-ce pas? Et je pensais que c'était possible de faire une pièce de théâtre. Au début, je pensais faire une pièce de théâtre. Jean-Marie Serrault avait d'ailleurs adapté un arc-en-ciel pour l'Occident chrétien au théâtre. Il avait représenté à Mamet et à Venise, à l'époque, avec des acteurs magnifiques. Donc, je suis arrivé au bord du théâtre, j'ai donné une structure dramatique en faisant intervenir les dieux, mais avec des préoccupations modernes, des préoccupations qui étaient celles de quelqu'un qui luttait pour la décolonisation. C'était des dieux décolonisateurs d'Haïti, de l'Afrique et des autres sociétés colonisées du tiers-monde. Donc, c'était un livre très engagé, on peut dire, mais tout en respectant l'émotion esthétique, n'est-ce pas? Je ne voulais pas faire un pamphlet. Donc, je suis arrivé à intégrer des traditions folkloriques, si on peut dire, n'est-ce pas, à des ambitions de poète, à des ambitions de la poésie moderne, n'est-ce pas?
Et comment ce livre a-t-il été reçu, en fait?
Très bien. C'est-à-dire qu'il y a eu deux réactions. D'abord, des gens qui n'ont pas été contents, n'est-ce pas?
Alors, rappelez-nous la date de parution.
C'était 60? En 1965. 67 a été adapté, oui. Je l'ai publié aussi à Cuba. Il a eu beaucoup de succès à Cuba. Et puis, dans la presse en France, j'avais eu de très bons articles en général avec d'autres personnes parce que à un moment donné, les dieux intervenaient pour mettre en jugement, si je peux dire, entre guillemets, certaines pratiques coloniales, notamment de l'Occident chrétien. Ça n'a pas plu à tout le monde, n'est-ce pas? On m'a prêté des intentions revanchardes, n'est-ce pas? On m'a associé à la violence de France Fanon. On pensait que j'étais quelqu'un, un violent, quoi, de la décolonisation. Non? Alors que c'est un livre plein de tendresse plein de signes, de signaux d'amitié pour l'Occident chrétien, n'est-ce pas?
Je vais en lire un extrait.
Oui.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Il n'y a de salut pour l'homme que dans un grand éblouissement de l'homme par l'homme, je l'affirme. Moi, un nègre inconnu dans la foule. Moi, un brin d'herbe solitaire et sauvage. Je le crie à mon siècle. Il n'y aura de joie pour l'homme que dans un pur rayonnement de l'homme par l'homme, un fier élan de l'homme vers son destin, qui est de briller très haut avec l'étoile de tous les hommes. Je le crie, moi, que la calomnie au bec de lièvre a placé au dernier rang des bêtes de proie. Moi, vers qui toujours le mensonge braque ses griffes empoisonnées. Moi, que la médiocrité poursuit nuit et jour à pas de sanglier. Moi, que la haine dans les rues du monde montre souvent du doigt. J'avance, berger de mes révoltes, j'avance à grands pas de diamant. Je serre sur mon cœur blessé une foi si humaine que souvent, la nuit, ses cris me réveillent, comme un nouveau-né à qui il faut donner du lait et des chansons. Et tendrement la nuit, je berce mon Hélène, ma foi douce. Ma vie tombe en eau de printemps sur son corps, je berce la dignité humaine et lui donne le rythme des pluies qui tombaient dans mes nuits d'enfant. J'avance, porteur d'une foi insulaire et barbue, bêcheur d'une foi indomptable, indomptée. Non un grand poème à genoux sur la dalle de la douleur, mais une petite lampe haïtienne qui essuie en riant ses larmes, et d'un seul coup d'aile s'élève pour être à tout jamais un homme, jusqu'aux confins du ciel debout, et libre dans la verte innocence de tous les hommes. Occident chrétien, mon frère terrible, mon signe de croix le voici. Au nom de la révolte et de la justice et de la tendresse, ainsi soit-il.
Vous voyez, c'est un cri de tendresse plutôt, c'est un acte de foi dans la solidarité de tous les hommes.
Absolument.
C'est le fond même de ma pensée de poète.
C'est une sorte de chant d'amour.
C'est un chant d'amour, absolument, n'est-ce pas? Moi, je donne une grande place à la tendresse dans les relations humaines.
Oui. Justement, vous parlez de tendresse. J'aimerais que... Présentez-nous votre...
Vous me ramenez à la sensualité, n'est-ce pas ?
Sensualité solaire, non ? Comment vous l'appelez ? C'est quoi le terme exact ?
Moi, ma mère m'avait toujours dit qu'il faut avoir deux fers au feu, le catholicisme et le vaudou, le créole et la langue française, naturellement, n'est-ce pas, Haïti et la France, et moi aussi, la rigueur intellectuelle, l'étude, le goût de la pensée, de la réflexion, et l'érotisme solaire.
Voilà.
Parce que j'étais très vite choqué dès mon adolescence par l'importance que les hommes accordent au porno. Et moi, j'ai pris l'inverse du porno pour moi, c'est l'érotisme solaire, c'est-à-dire que la rencontre de l'homme et de la femme, c'est une rencontre d'émerveillement. J'étais très étonné de voir, n'est-ce pas, qu'on n'a pas créé dans la culture une sorte de merveilleux féminin. Vous voyez, je pense que c'est l'acte d'amour, c'est l'acte merveilleux par excellence. C'est d'où nous venons tous. Donc j'essaye dans mes nouvelles, je suis en train de préparer un livre qui s'appelle « Les aveugles font l'amour à midi ».
C'est un roman,
roman qui se passe à Cuba, n'est-ce pas, un roman. J'aimerais bien réussir ce livre parce que on connaît très mal la sexualité des aveugles, et les aveugles peuvent être de formidables voyants en amour.
C'est ça. C'est très bien dit,
n'est-ce pas? Alors pour vous dire, oui, moi j'assume ce souci de créer de l'émerveillement autour de tout ce qui concerne la femme.
Oui, parce que dans vos romans, cet érotisme est très présent.
Hein,
pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, vous pouvez rappeler les titres de vos ouvrages, de vos romans.
Bon, Adriana dans tous mes rêves.
Voilà, qui a été primé.
Alléluia pour une femme jardin, qui est un livre érotique par excellence.
Et Rose
dans un train chinois. L'œillet ensorcelé, oui. Un petit livre que j'ai publié chez Gallimard. Et je continue parce que Les aveugles font l'amour à midi, qui, j'espère, sera mon livre érotique par excellence, n'est-ce pas? Oui, parce que ça se passe à La Havane, vous voyez. L'érotisme solaire
La Havane, évidemment, ça ferait l'objet d'un tout autre entretien, mais je l'ai dit dans mon introduction, vous avez été appelé même par Che Guevara pour avoir un rôle
À ses côtés.
Important.
J'ai eu l'honneur de travailler à ses côtés pendant un an. En plus, jusqu'à sa mort, j'étais en contact permanent avec lui, jusqu'à sa disparition vers la Bolivie, n'est-ce pas? C'est l'un des grands souvenirs inoubliables de ma vie. C'est ma rencontre avec Che Guevara et avec la révolution cubaine en général. Je n'ai pas une idée absolument dénigrante de Cuba, pas du tout. J'ai une expérience très complexe, très difficile, et qui m'a amené à rompre avec les Cubains. Mais la révolution cubaine aura été une expérience inoubliable de ma vie.
Quel souvenir précis, qu'est-ce que vous gardez comme image de Che Guevara ou comme mot? Qu'est-ce qui vous avait frappé dans le personnage?
Che Guevara, c'est que on croit, les gens, il y a des images fausses de Che Guevara.
Oui, justement, vous qui l'avez connu de très près.
Moi, j'ai connu un homme qui aimait la poésie. Mmh. J'ai gardé le souvenir de Che Guevara un matin à l'aube, alors que le soleil se levait, et qui me récitait des vers de Pablo Neruda. Mmh. C'est extraordinaire.
Ah oui. Et Che Guevara... Pablo Neruda, que vous avez connu également.
Que j'ai connu, avec qui j'ai travaillé aussi pendant 7 mois à Santiago du Chili. Mmh. J'ai eu le privilège, la chance exceptionnelle, jusqu'à ce jour, je peux dire, de rencontrer des hommes qui m'ont tendu la main, et comme Breton, comme Césaire, comme Senghor, comme Che Guevara, comme Pablo Neruda, comme Diego Rivera, Aragon, Éluard, Tristan Tzara, Sartre lui-même, Camus que j'ai rencontré. Vous voyez. Ça, c'était une chance exceptionnelle d'avoir connu des hommes qui m'ont tendu la main, vous comprenez, qui m'ont permis d'avancer dans ma... sur mes propres sentiers, mes modestes sentiers, n'est-ce pas? Et aujourd'hui...
C'était une effervescence intellectuelle incroyable, hein, quand même.
Une
effervescence intellectuelle incroyable.
Vous savez, mon projet en entrant dans la vie, c'était d'inonder toutes les rives. Je ne créais pas des cloisons entre les différentes formes d'existence. J'étais sportif. Je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je fréquentais des gens très intéressants à Paris. Je draguais énormément. n'est-ce pas? Les femmes m'ont rendu la vie un bonheur exceptionnel. Douce. Vous comprenez? Tout cela, je pense qu'on pouvait inonder toutes les rives en vivant. Mmh. Que notre existence, c'est notre existence actuelle, c'est notre existence éternelle si on n'est pas croyant. Mmh. On ne peut pas perdre une vie éternelle qu'on n'a qu'une fois. Vous comprenez? C'est pour cela que j'ai voulu vivre dans toutes les directions. J'étais très sportif. J'ai fait tous les sports. C'est pour ça que j'arrive à 83 ans avec quand même un minimum de santé et pour écrire.
Et physique et intellectuelle, apparemment. Hein? 83 ans et vous continuez à écrire et à débattre.
Ah non, plus que jamais. Si vous voyez mon tableau de bord, j'ai affiché à côté de mon bureau, à côté de ma table, n'est-ce pas, la liste des travaux que j'ai. Je termine un livre qui s'appelle Une gomme pour le crayon du Christ, les aveugles font l'amour à midi, et Cuba, service après naufrage. Il y a un service cubain qui a compté dans ma vie, malgré mon naufrage personnel dans la révolution cubaine. N'est-ce pas? Je suis un vaincu sur le plan politique, mais j'essaie de me rattraper sur le plan de la création, sur le plan de la beauté, sur le plan de la conversation, de l'universalité, de la tendresse et du bonheur, quoi.
Écoutez, René de Pestre,
c'est un bonheur pour moi d'avoir été reçu par vous, madame.
Écoutez, vous êtes tout à fait charmant. Je vous remercie. C'est tout le bonheur était pour moi, comme on dit. On va se quitter, malheureusement. L'émission arrive à son terme. On va se quitter toujours sur ce même chanteur réunionnais, Davy Sicaire.
Oui, c'est très bien.
Oui, c'est très bien. Et sur cette chanson qui s'appelle « Mon pays », et on va penser très fortement à Haïti.
Merci mille fois.
Merci René de Pestre.
Au revoir, je vous embrasse.
Moi aussi.
Ah ouh, mon pays, mon pays. Ah ouh, ça mille et mélange, bien pour vous. Iti, Iti, tout ça là. Iti, raconte-moi ces histoires là.
petit un jour où la ressemble au ciel. Le lendemain soleil t'épouffe l'ampoule. Midi ou lundi soleil, moi elle est fatiguée. Et là les fanons
écoutez Aligre FM 93.1.